Escalade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Chères auditrices et auditeurs de Calade Ma Radio, on est ensemble sur 100.9 pour notre rendez-vous mensuel, l'émission Couleurs du Monde. Alors, je vous rappelle tout d'abord que l'émission est à présent diffusée le lundi à 20h et qu'elle sera rediffusée le dimanche qui suit à 10h. Alors aujourd'hui, on est en bonne compagnie. D'abord, on retrouve un ancien comparse, Franck.
Bonjour les Caladoises et bonjour les Caladois.
Et Eric.
Bonjour à tous.
Et bien sûr, on est en compagnie de Patrick, hein, on ne pourrait pas faire sans lui.
Salut tout le monde.
Alors, aujourd'hui, une émission consacrée à l'aviation. Et je vous rappelle, je vous remémore, hein, puisque je suis sûre que tous vous l'avez écouté, qu'il y a eu une émission précédente avec également Eric et Franck, l'année dernière, hein, qui portait sur l'aviation. Et en gros, hein, on avait été des débuts de l'aviation jusqu'à à peu près 1918. Et aujourd'hui, eh ben, justement, on va aller sur la suite. Alors, est-ce que Eric, tu peux en introduction nous rappeler un petit peu quelle est la situation justement fin 1918?
Alors, juste après l'armistice, on se retrouve avec un dilemme. On a beaucoup d'avions, on a 10 000 avions et sans emploi. On ne sait pas quelle va être leur utilité.
D'accord, on ne sait pas quoi en faire.
Exactement. On a 10 000 avions sur le carreau, on a des ingénieurs, on a des chaînes de montage et on ne sait pas quoi en faire.
D'accord. Voilà. Alors du coup, eh ben, ce qu'on va développer au cours de cette émission, c'est finalement les différents aspects du développement fulgurant de l'aéronautique entre 1919 et 1945, et qui se termineront par une vision apocalyptique du monde, enfin une vision apocalyptique mondiale, hein, pardon. Alors en trois parties, hein, d'abord le temps du commerce, puis le temps des raids et des records.
Et des records, oui.
Mmh. Et pour finir, le temps de l'apocalypse. Alors, on va commencer tout de suite par cette première partie, hein, sur le temps du commerce. Et dans un premier temps, bah, tu vas nous parler, Eric, du transport des passagers civils. Puisqu'effectivement, tu nous as dit qu'on avait plein d'avions dont on ne savait plus quoi faire. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces avions?
Eh bien, très vite va germer l'idée de les utiliser dans le transport de passagers. Et ça va se faire très, très vite. On est moins de 3 mois après l'armistice, on est le 8 février 1919.
D'accord.
Et on va assister au premier vol de transport civil au monde.
D'accord, et ça se passe où?
Et ben, ça se passe à Paris, ça, la première ligne commerciale c'est Paris-Londres.
Okay. Voilà,
c'est Lucien Bossoutreau qui est aux commandes. Mmh. Et il va piloter un Farman Goliath et c'est un avion emblématique parce que c'est un avion qui a été construit à la fin de la guerre. C'est un bombardier.
D'accord.
Et puis il n'a pas été utilisé puisque la fin du conflit est arrivée. Il a été reconverti en avion civil. Il y avait les caisses de munitions qui ont été remplacées par 12 sièges en osier sur lesquels ont pris place les 12 premiers passagers.
Très bien. Et ces 12 passagers, c'était vraiment des gens pris au hasard ou c'était un peu des gens connus?
On a eu beaucoup de mal à trouver.
Merci. Bien vrai.
Donc, parce qu'en fait,
ça devait être quand même risqué. Hein,
oui, puis seuls les militaires avaient le droit de survoler l'Angleterre.
Ah bon?
Donc il a fallu que les passagers civils s'affublent de vêtements militaires pour avoir le droit d'atterrir à Londres.
D'accord. Oui.
Ah ouais. Et du coup, alors, il y avait un rituel avant de prendre l'avion dans les années 20?
Ah oui, alors il y a un rituel qui est étonnant aujourd'hui, c'est la pesée. C'est-à-dire chaque personne était pesée devant tout le monde.
D'accord.
Et il y avait un poids limite et si on allait au-delà, il y avait une taxe.
D'accord, une taxe. Ah ouais.
Et j'ai une anecdote à vous livrer. C'est un passager qui monte à bord de son avion. Il a une valise. Mmh. Et malheureusement, il laisse tomber la valise qui crée un trou dans le plancher de l'avion. Et alors, on ne pouvait pas changer de place parce qu'à l'époque, ça aurait déséquilibré l'avion. Donc, il a dû rester près du trou béant qu'il avait créé. Puis, on l'a emmitouflé. Il s'est emmitouflé de vêtements épars. Voilà.
Ah ouais, d'accord. Ouais,
tout à fait. Okay.
C'était donc vraiment très extrêmement périlleux, tout
ouais,
ça.
Carrément.
Oui, c'est ça. L'avion a volé avec le trou, en fait.
L'avion a volé avec le trou. Ça n'empêchait pas le vol, mais le passager a dû rester à l'endroit où il était.
D'accord.
Ouais, tout à fait.
Du coup, alors, c'était quoi le type de personne qui prenait l'avion à ce moment-là ?
Alors, c'était, en fait, d'abord en 1919, c'était une partie infime de la population qui
Bien
prenait
sûr.
L'avion.
C'était cher ?
C'était cher. Et je dirais que c'était un entre-soi. C'est-à-dire
D'accord.
que c'était toujours les mêmes personnes qui prenaient l'avion.
Oui.
Tant et si bien que le pilote connaissait les passagers et vice-versa. Donc, ils se connaissaient. Donc, c'était vraiment un entre-soi.
Et c'était des gens, du coup, qui avaient de l'argent. Enfin, ils prenaient l'avion pour faire quoi ? Pour les affaires ? Pour
des
voyages, des visites ?
Les voyages. Et puis, c'était la nouveauté. Donc, il y avait ce côté un peu pour prendre des risques, pour
D'accord.
aller vers une nouvelle aventure. Oui, tout
ah
à fait.
Oui. Oui. Oui, c'était presque en soi. Juste le fait de prendre l'avion, c'était l'attraction, finalement.
Oui,
enfin,
oui,
en quelque sorte, si je puis dire.
Oui, tout à fait.
D'accord. Et du coup, alors les pistes, ça ressemblait à quoi, les pistes d'aviation pour des passagers ?
Alors, les pistes en dur n'existaient pas, comme aujourd'hui. Alors, on parle beaucoup de champs d'aviation. Par exemple, au Bourget, là où j'habite, on parle de champs d'aviation du Bourget. Tout
D'accord.
simplement parce que les avions se posaient dans des terrains agricoles. Hein. Au Bourget, par exemple, on expropriait des paysans.
Ah oui.
Et les terres agricoles ont été réquisitionnées. Donc, c'était souvent des champs avec de l'herbe. Voilà.
Okay.
Un terrain herbeux, voilà, et gazonné.
Terrain herbeux pour,
oui,
pour atterrir.
Tout à fait.
Et donc, il n'y avait pas toutes ces tours de contrôle.
Non, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas.
Non, les règles de sécurité vont venir bien après. Là, on est vraiment dans les prémices de l'aviation civile.
Voilà. D'accord. Donc, du coup, pour les passagers, c'était risqué, c'est quelque chose qui pouvait leur faire peur, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est une aventure, mais enfin, est-ce
voler,
que quand
c'est
même...
plus qu'une aventure, c'est une épreuve.
D'accord.
D'abord, il faut savoir que les avions n'étaient pas isolés, donc il y avait le bruit du moteur qui était infernal, qui allait du supportable à l'infernal.
D'accord.
Il fallait supporter cela, et vous ajoutez les odeurs d'essence et d'huile, donc c'était vraiment une épreuve. Et alors, si on voulait, on pouvait aérer l'avion. Hein, il y avait des vitres qui se baissaient à la manière des RER aujourd'hui.
Ah oui, d'accord.
Mais si vous baissiez la vitre, il y avait un air qui s'engouffrait dans l'habitacle. Donc, vous étiez happé par une tempête de vent. Et si vous fermiez au contraire la fenêtre, vous étiez dans un air confiné et malsain.
D'accord.
Donc, c'était vraiment
donc,
une épreuve pour les passagers.
C'était pas forcément quelque chose d'agréable.
Ah non.
Et tu m'as dit, excuse-moi, qu'on pouvait aussi, on demandait en fait carrément, on pouvait payer effectivement les voyageurs pour certaines traversées ou pas ?
Ah oui, certains passagers ont payé, oui, tout à fait, oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'on est payé pour prendre l'avion ?
Oui, le premier vol commercial, en fait, personne ne voulait monter dans l'avion. Donc,
D'accord. Okay.
Voilà, on les a payés et au retour...
c'est incroyable.
Au retour à Londres, Paris, il n'y a eu qu'un seul passager, un seul volontaire.
Ah oui, d'accord.
Les autres ont préféré revenir en bateau.
C'était tellement terrible pour les autres d'avoir fait l'aller qu'ils n'ont pas voulu faire le retour.
Ah, c'est vraiment le premier vol commercial, vraiment en février 1919.
Au tout début, d'accord.
Oui.
Et ça pouvait être dangereux, du coup ?
Ah, c'était très dangereux parce qu'il n'y avait pas de fiabilité. Et notamment, il y avait beaucoup de pannes de moteur. Je peux vous citer une anecdote d'un avion qui est parti de Paris jusqu'à Londres et qui a mis 2 semaines, 15 jours pour faire ce vol. Parce qu'à 3 reprises, le moteur s'est cassé.
Et donc, il a atterri quelque part ?
Il a atterri là où il pouvait. Et puis, tout le monde s'y mettait. Les passagers mettaient les mains dans le cambouis, si je puis dire, pour réparer le moteur, quand d'autres allaient chercher des victuailles ou le ravitaillement. Donc, c'était vraiment une aventure.
D'accord.
Voilà. Et peut-être, je vous parlerai aussi du premier accident d'avion.
Oui.
C'est encore avec un Farman Goliath entre Londres et Paris. À l'époque, en fait, les avions suivaient les lignes tracées au sol, les voies de chemin de fer, les voies routières. Et les avions volaient à la même altitude. Oui. Donc les deux avions se sont télescopés parce qu'il y avait du brouillard.
D'accord.
Et c'est à partir de cet accident d'avion qu'on a édicté les premières règles. Donc dorénavant, les avions ne voleraient plus à la même hauteur. Et
d'accord.
S'écarteraient de quelques mètres. Voilà.
Très bien. Voilà. Ok, donc du coup, finalement, ces premiers passagers civils, ils ont été un petit peu le... Ils ont fait les cobayes pour que puissent se mettre en place des règles, des normes.
Et le transport civil d'anecdotique au départ va connaître une progression fulgurante.
Évidemment.
Ah oui, ça va être très très rapide.
Tout à fait. Alors, on en reparlera du coup. On a dit hein, que ces avions qui étaient là et qui ne servaient plus, dans un premier temps, avaient été transformés hein, pour transporter des passagers.
Oui.
Mais ils servaient aussi à autre chose.
Oui. Alors, il y a un deuxième usage après le transport de passagers, c'est le transport du courrier. Et le père fondateur de cette idée absolument, absolument fantastique, c'est Pierre-Georges Latécoère. Pierre-Georges Latécoère, c'est un industriel hein, au départ. Mais bon, il participe à la guerre et puis il va être vite réformé parce qu'il est de mauvaise vue. Donc, revenu à la vie civile, il se met à construire des obus, comme beaucoup d'industriels à l'époque. Et puis, il va fabriquer des avions.
D'accord.
Et très vite, lui, vient l'idée de transporter du fret et du courrier postal. Voilà.
D'accord. Et alors, qui pilotait ces avions ? Comment ça se passait ?
Ah, alors là, il y avait un directeur qui s'appelait Didier Dora. Mon collège au Bourget porte ce nom.
D'accord.
Didier Dora, c'était le directeur qui supervisait les pilotes qui voulaient entrer dans les lignes Latécoère.
D'accord.
Et il y a une anecdote avec Jean Mermoz. Hein, Jean Mermoz, qui avait beaucoup d'expérience, qui avait beaucoup d'heures de vol. Il se présente devant les yeux de Didier Dora.
Oui.
Et l'erreur de Jean Mermoz, c'est qu'il va essayer d'impressionner Didier Dora et faire toutes sortes de cabrioles aériennes.
D'accord.
Et cela ne plaît pas du tout à Didier Dora, qui lui dit qu'ici, on n'a pas besoin de clowns ou d'acrobates, on a besoin de pilotes. Donc il va les conduire et puis très vite... Devant la personnalité extraordinaire de Jean Mermoz, il va quand même l'intégrer à l'aéropostale et Jean Mermoz deviendra l'une des gloires des ailes françaises.
D'accord.
Et en même temps, ça nous dit bien ce passage d'une époque héroïque à la guerre, etc., où oui, effectivement, on peut faire des cabrioles, mais à une époque où, en fait, il faut rationaliser tout ça.
Exactement.
Donc, c'est fini, les petits rigolos, les casse-coups, il faut des gens, des pilotes fiables, en fait.
Oui, parce que là l'idée de l'ATQR, c'est d'assurer des vols réguliers.
Mais oui, bien sûr.
Cette fois-ci, il faut que le courrier
arrive. Oui, il n'a pas besoin de faire des cabrioles
pour
arriver plus vite.
Il n'y a pas de prise de risque inutile.
Oui, tout à fait.
Et justement, alors, j'ai entendu dire que le transport de courrier, c'était presque considéré comme une religion. Tu peux nous dire deux mots là-dessus ?
Oui, alors c'est-à-dire que Latécoère et Dora veulent absolument que le courrier arrive coûte que coûte. Mm-hmm. Je peux vous citer ces deux phrases. Vous volerez par tous les temps, vous arriverez à l'heure. Ça,
d'accord.
C'est la doctrine de Latécoère dès le départ. Les avions partent, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils partent et ils doivent arriver. Ça, c'est
ils doivent arriver à l'heure, mais alors ils sont meilleurs que la SNCF, je trouvais.
Oui, et c'est cette exigence très forte qui va faire la renommée des lignes Latécoère, qui deviendront plus tard l'aéropostale.
Très bien. Et alors, il établit quelle sorte de ligne, en fait, Latécoère ?
Alors, l'idée de départ, c'est une idée extravagante, c'est d'aller de la France en Afrique et de l'Afrique en Amérique du Sud.
D'accord.
Donc, c'est déjà impressionnant, parce que Afrique et Amérique du Sud, ça fait quand même une belle
distance.
C'est
impressionnant.
Hein. Ouais.
Donc là, on est au lendemain de la guerre, dans les années 20. Donc la première étape, ça va être de rallier Toulouse, Montaudran, à Barcelone. Et à l'époque, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on sortait de la guerre où les avions, finalement, avaient un rayon d'action assez restreint.
Très réduit, oui, tout à fait.
Ils allaient sur le champ de bataille et revenaient à leur camp de base. Là,
on est sur une autre philosophie.
Survoler des montagnes, les Pyrénées, c'était déjà un premier écueil. Après de Barcelone, on va dans le sud de l'Espagne. Mm-hmm. Du sud de l'Espagne, on va au Maroc, à Casablanca notamment. Il y a une étape. Et de Casablanca, on va à Dakar. Et c'est aussi l'idée de forger l'administration de nos anciennes colonies. Voilà, il faut faciliter,
bien sûr.
Faciliter la communication avec nos colonies.
Très bien. Et alors,
l'idée ne s'arrête pas là, parce qu'après de Dakar, on va aller jusqu'au Brésil, à Natal.
D'accord.
De Natal, on va à Rio, de Rio à Buenos Aires, et puis de Buenos Aires, on ira jusqu'à Santiago du Chili. D'accord. Et ça va se faire, ça va se faire.
Okay.
En une dizaine d'années, tout va se faire. Voilà.
Impressionnant.
Très bien, effectivement.
Ah, c'est...
Et donc, tu dis, à un moment, les avions, ils vont passer au-dessus du désert. C'était quelque chose de compliqué, ça ?
Oui, alors c'était une aventure absolument dantesque, hein, parce qu'il fallait traverser notamment le désert au niveau du Maroc et de la Mauritanie. Et souvent, il y avait des pannes moteurs. Les avions s'arrêtaient dans le désert. Et il faut savoir qu'il y avait des troupes rebelles.
Ah oui.
Les morts, on les rappelait les hommes bleus. Et dès qu'un avion de l'aéropostal se posait en désert, ils étaient pris en chasse par ces hommes du désert.
D'accord.
Et ils étaient faits prisonniers et rançonnés.
Ouais,
ça va être le cas de Jean Mermoz
qui
va poser son avion aussi en plein désert, qui va être assommé, qui va être ligoté. Qui va parcourir une partie à d'autres chameaux. Et puis, la TQR va payer le prix de la rançon pour le libérer.
Pour le libérer,
oui, oui.
OK.
Ce n'était pas sans risque.
Mmh. Effectivement.
Et une dernière chose, donc, pour assurer la fiabilité de l'aéropostal, les avions ne voleront plus tout seuls, mais à deux. Comme ça, si le premier avion a une panne moteur, le deuxième se pose aussitôt, prend le courrier de l'avion
et prend le relais le temps que l'autre en fait, soit réparé.
Il faut que le courrier arrive coûte que coûte.
Est-ce qu'en 20 secondes, tu peux nous dire pourquoi l'aéropostale a disparu finalement du jour au lendemain ?
C'est la crise de 1929 qui va mettre un terme à l'aéropostale
et
à toutes les autres compagnies.
La compagnie.
Et puis le manque de soutien politique. Et on va arriver à la création d'Air France en 1933.
Voilà. D'accord.
Très bien. Alors, on va se faire une petite pause musicale après toutes ces informations. C'est parti.
Comme ça t'exupérie.
Les couleurs du monde.
On est toujours sur Caladma Radio. On vient d'écouter Calogero, Volée de nuit. Et pour cause, puisque notre émission Les couleurs du monde de ce mois porte sur l'aviation. Tu peux nous dire, Eric, pourquoi tu as choisi ce titre ?
Ah oui, c'est une chanson qui rend un hommage vibrant à ces temps héroïques de l'aéropostale et notamment à Saint-Exupéry dont on parlera tout à l'heure.
Tout à fait. Et bah oui, on va en parler avec Franck. Donc Franck, c'est le temps des raids et des records.
Le temps des raids et des records. Alors, pour commencer, je dirais que cette période est marquée par deux choses.
Là, tu reviens à l'après-Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça.
Première Guerre mondiale.
C'est-à-dire qu'immédiatement après la fin du premier conflit mondial, il y a une espèce de concours international qui est fait à celui qui ira ou le plus loin, ou le plus vite, et surtout entre deux pays, entre la France et les États-Unis.
D'accord.
Alors d'autres, ils vont y participer, mais généralement, là où ça se passe, ça va être entre ces deux nations. D'accord. Et notamment, parlons tout d'abord des femmes. Et pour les femmes, c'était d'autant plus compliqué, deuxième aspect, c'est qu'elles avaient effectivement les plus grandes difficultés à s'intégrer à cette course à la vitesse et à la distance. Oui. Généralement, elles n'étaient pas prises au sérieux. Et en plus, elles étaient mal financées et mal équipées.
D'accord.
Donc ça rend les exploits féminins d'autant plus impressionnants.
Alors, tu nous en parles un peu de ces premières aviatrices ?
Oui, alors pour moi, la première, une des premières à avoir eu d'ailleurs son pilote, son brevet de pilote.
Son brevet.
C'est Adrienne Bolland qui a eu son brevet en 1920, donc on est vraiment juste après la Première
après
Guerre
la
mondiale.
Guerre.
Elle est née en 1895, elle va mourir en 1975 pour dire qu'elle ne va pas, contrairement à beaucoup d'autres d'ailleurs, mourir en vol.
Oui.
Elle va surtout traverser la Cordillère des Andes avec un avion, on va dire, complètement désuet à l'époque, le Condron G3.
D'accord.
Donc elle va traverser la Cordillère dans sa partie la plus difficile. Avec un avion de mauvaise qualité.
D'accord. Et pourquoi cet avion-là c'est...
Alors, cet avion-là lui a été donc donné par l'entreprise Caudron. Elle en a réclamé un beaucoup plus moderne. Et évidemment, le patron n'a pas voulu lui envoyer.
Parce que c'était une femme ?
Parce que c'était une femme. D'accord. Et vous ne voulez pas, justement, investir et prendre des risques avec une femme.
Okay.
Ça, faut être clair. Mais elle est très énergique, très volontaire. Elle s'habille pas beaucoup pour faire une traversée extrêmement pénible, parce que je vous rappelle que la Cordillère des Andes culmine à plus de 6000 mètres d'altitude.
Il doit pas faire chaud, oui, quand t'es en vol.
Exactement. Ouais. Et surtout, il y a une petite anecdote qui est quand même assez originale, c'est que une voyante vient la voir à son hôtel la veille de son départ, et lui, écoutez, à un moment donné, voilà, vous allez arriver devant une perspective, vous allez voir un lac en forme d'huître, et votre instinct va vous inciter à aller vers la droite, là où la vallée est la plus large. Surtout pas. Vous ne passerez pas à droite, vous passerez à gauche.
Ok. Elle l'écoute ?
Qu'est-ce qui se passe ? Elle arrive à un endroit où elle voit un lac en forme d'huître, avec un passage qui paraît évident sur la droite. Elle a très peu de temps pour décider.
Bien sûr.
Elle passe à gauche. Au début, c'est dur, mais elle arrive saine et sauve à Santiago, le 1er avril 1921.
Eh ben, incroyable.
Et comme c'était le 1er avril, on a cru que c'était une farce. Donc les autorités françaises étaient... quasiment pas présente. En revanche, énorme tonnerre d'applaudissements dans tout le monde sud-américain, où là-bas, on l'appelle la déesse des Andes.
D'accord. Wow.
Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve aussi chez les hommes. Mermoz était une célébrité en France et en Amérique du Sud.
Oui,
d'accord. Okay. C'était un dieu vivant.
C'était une star mondiale. Et surtout, donc, dans les pays qu'il a traversés.
Finalement, Adrienne Bolland, elle va être plus soutenue par les étrangers que par la France s'en désintéresse.
Elle va revenir en France, elle va faire notamment faire des spectacles aériens, des loopings, etc. Mais c'est vrai qu'elle sera toujours mieux reçue, paradoxalement évidemment, en Amérique latine qu'en France.
D'accord.
Deuxième exemple, Hélène Boucher, on est dans la même période, on est un peu plus tard, elle est née en 1908, morte en 1934, donc
d'accord.
Ça doit vous dire que
qu'elle est morte en vol,
elle est morte malheureusement, pas tout à fait en vol, mais presque, dans un avion, en tout cas, elle est morte dans un avion.
D'accord. Et alors, elle a battu records, c'est ça ?
Elle battait surtout des records de vitesse.
D'accord.
Et notamment, c'est la première femme à atteindre la vitesse de 400, de dépasser les 400 km à l'heure dans les airs.
Okay.
Alors, je me fais un peu de pub, entre guillemets, parce que je suis allé vérifier. Et quel était le premier homme? Alors, c'était un certain Florentin Bonnet. Alors, c'est pour ça que je me permets de le citer, qui avait atteint cette vitesse en 1924. D'accord. C'est-à-dire, on va dire la décennie précédente, c'était un militaire. Mm-hmm. Et d'ailleurs, il est mort bêtement, c'est pour une parenthèse. Il a voulu faire un looping lors d'une préparation d'un meeting. Il n'avait pas attaché le siège correctement. Il s'est retrouvé à l'envers. Il n'a pas pu récupérer, effectivement, les commandes de l'avion. Et il est mort à cause
Incroyable.
De ça.
Ah oui, d'accord.
Incroyable. Il est mort en 1929 à cause de ça. Bon.
Et Hélène Boucher, comment elle est morte?
Alors, elle est morte assez dramatiquement lors d'un décollage, en fait, justement, au Bourget. Et à 26 ans, on perd une des plus grandes aviatrices françaises. Il y a énormément d'établissements qui s'appellent Hélène Boucher.
Oui,
d'accord.
Et c'est quoi? Ça a explosé? Enfin, comment...
Alors, il faut savoir qu'à l'époque... Justement, pour battre ces records, on gonflait à bloc les réservoirs d'essence de carburant.
Bien sûr.
Donc, la grande difficulté,
c'était
de décoller avec tant de carburant.
D'accord.
Et d'ailleurs, Saint-Exupéry et Mermoz ont eu des problèmes avec ça, parce que quelquefois, dans des unités de mesure, on utilisait des galons, et les galons anglais et américains ne sont pas les mêmes. Il y avait des confusions entre les deux.
Ah oui, d'accord.
Et c'est arrivé à Saint-Ex aussi, il y avait un accident à cause de ça.
D'accord.
Donc, c'était très compliqué de... faire décoller du ciel un avion extrêmement lourd.
Évidemment.
Parce que pour faire des vitesses extrêmement fortes ou aller très, 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 très loin...
Il fallait beaucoup de carburant.
Alors, troisième exemple.
Voilà, hein, on a deux autres femmes qui vont établir des records chacune dans leur...
Maryse Bastier, alors elle, c'est plutôt sur la distance.
Ouais.
Et elle a battu des records fabuleux. Encore une fois, elle avait toutes les difficultés du monde... à avoir des avions performants, parce qu'il fallait quand même des avions performants pour battre des records. Et que généralement, les Français disaient non.
Okay.
Et elle devait quelquefois, Eric me l'avait confirmé, aller justement à l'étranger pour récupérer des avions étrangers.
D'accord. Pourtant, elles avaient bien les mêmes compétences que les hommes, elles avaient les mêmes brevets.
Bien sûr,
brevets,
je dirais que... Alors, je pense qu'il y avait un côté effectivement technique et un côté, rêve dans cette période-là. C'est qu'on rêvait, entre guillemets, de voler pour battre des records et aussi pour avoir des sensations que nul humain n'avait connues avant.
D'accord.
Je pense qu'il y avait aussi cette vision-là.
Bien sûr.
Mais c'était chez les hommes comme chez les femmes.
Hein. Oui, tout à
c'était
fait.
C'était totalement indifférent. Mm-hmm. Maryse Bastier, qui en plus, comme Hélène Boucher, comme Adrienne Brunand, vont militer... pour le droit des femmes en 1934.
Ah oui, donc c'était des emmerdeuses, en fait.
Voilà.
D'accord.
C'est-à-dire qu'elles étaient pour la liberté des femmes, en fait, en gros.
Bien sûr.
Et elles ont été aussi... donc ça, je tiens à souligner, c'est important. Adrienne Bolland et Maryse étaient aussi des résistantes.
Très bien.
Ah oui, d'accord. Mmh.
Donc elles ont cumulé beaucoup de choses. Et je pense que si, évidemment, Hélène Boucher était restée vivante, je pense qu'elle aurait été aussi, elle, résistante. Donc c'était des femmes remarquables.
Oui, bien sûr.
Et donc,
déjà pour aller piloter des avions quand on leur file des vieux coucous et battre des records
absolument.
Avec des avions qui ne sont pas
La déesse des Andes en Amérique latine. Et pour en terminer avec Maryse Bastier, elle aussi elle est morte bêtement à Bron en 1952, pas en tant que pilote, elle était dans un avion en fait avec des passagers. Et l'avion a voulu faire un looping, l'avion s'est raté et s'est scratché.
Ah oui, elle était en tant que passagère en fait.
Elle était en tant que passagère, parce qu'elle ne pouvait plus piloter depuis longtemps, elle avait eu un problème de santé. D'ailleurs, tous ces pilotes étaient jeunes, parce qu'au bout d'un moment, a priori, les réflexes étant moindres, on n'avait plus les capacités quand on avait au-delà de 40 ans.
Waouh, ça veut dire que ça ne devait pas être simple.
D'ailleurs, une parenthèse, pour ceux qui connaissent les têtes brûlées, on l'appelle Papy Boynton, alors qu'il a une quarantaine d'années. Mais c'est vrai que, on le retrouve après avec Saint-Ex, Saint-Exupéry, c'est que quand il revient piloter un Lightning P-38, il va pas être dans un avion de chasse, il va être dans un avion d'observation.
D'accord.
Il a plus les réflexes qu'il avait avant.
Je comprends.
Et en plus, la technologie n'est plus du tout la même, elle évolue à une vitesse gigantesque.
Oui, du coup, il faut être vraiment très à la page. Juste, tu ne nous as pas donné le record de distance de Maryse Bastier.
Alors, Maryse Bastier, elle a fait Paris... elle voulait faire Paris-Kazan. Kazan, donc c'est en Russie, donc un peu après Moscou. Elle a fait Paris-Moscou, quand
D'accord,
même.
D'accord,
en une traite.
Effectivement.
Elle voulait s'attaquer à un record du monde, c'est-à-dire un tour du monde, ce qu'a voulu faire Amelia Earhart, qui, elle, est américaine, qui est la grande aviatrice au niveau international, qui a tenté de faire un tour du monde avec son avion. Elle disparaît en mer en 1937.
Ah ouais, d'accord.
Donc elle n'a pas bouclé son tour du monde.
Non. Okay. Mais Amelia Earhart, a priori, on aurait retrouvé son avion cette année dans l'océan. D'accord. On aurait retrouvé cet avion.
2024 alors.
Voilà, okay. En 2024.
Incroyable.
C'est fou. Hein.
Oui. Donc voilà comment.
Elle l'a tenté en quelle année ce.
1937.
Ah ouais.
D'accord.
Voilà.
Impressionnant.
Et on arrive justement dans. Alors on l'appelait. Lady Lindy, parce qu'elle était un peu la femme qui représentait le pendant féminin de Lindbergh.
Et ouais, Lindbergh, le fameux Charles Lindbergh.
Charles Lindbergh, ça va être la partie sur le raid transatlantique d'Éric.
Alors ouais, merci Franck en tout cas de nous avoir parlé de ces femmes qui étaient finalement aussi des héroïnes. Hein.
Ah, oui.
On t'écoute Éric, alors tu nous parles un petit peu de...
Lindbergh.
De Lindbergh.
Ah, Lindbergh, alors là, c'est le personnage emblématique, hein, vraiment, de tous les aviateurs et aviatrices. Il est resté vraiment à la postérité. Et alors, il y a une personne dont il faut que je parle, c'est Raymond Orteig. Monsieur Orteig, c'est un franco-américain.
D'accord.
Et il lance un défi à tous les aviateurs, au premier aviateur qui franchirait l'Atlantique. Et il va décerner un prix de 25 000 dollars. Donc 25 000 dollars, c'est 450 000 euros à peu près pour notre
époque. Mm-hmm.
Donc ça va attirer beaucoup d'aviateurs, beaucoup, et non des moindres.
Hein. Et on est en quelle année, là ?
Ah bah là, on est en 1926-1927.
D'accord.
Et la fine fleur de l'aviation française va prendre part à ce défi.
Ouais,
vous avez notamment l'as des as du côté français, hein, René Fong, dont on avait parlé.
Oui, tout à fait, on en avait parlé à l'émission précédente.
Exactement. Il part de New York, puis son avion est lourdement chargé. Comme le disait Franck, le décollage est toujours le moment le plus délicat. Mmh. L'avion ne décolle pas et s'embrase.
Ouais. Ah,
il y a quatre passagers, deux vont périr brûlés. Mmh. Et René Fonck s'en extrait miraculeusement. Voilà, il s'en tire miraculeusement. Puis on a, la postérité a aussi retenu l'Oiseau Blanc. L'Oiseau Blanc, c'est un avion qui est, comme le dit son nom, il est tout blanc. C'est un avion magnifique. Et puis là, vont prendre part Dingesser et Colly.
D'accord.
Ils vont partir du Bourget. L'avion s'envole sans problème. Va larguer son train d'atterrissage du côté des coins. On peut voir le train d'atterrissage au musée de l'air et de l'espace.
C'était pas prévu, cette histoire-là.
C'était prévu parce qu'il fallait alléger l'avion.
Ah ouais,
donc, pour
d'accord.
Alléger l'avion, ils ont largué volontairement le train
d'atterrissage.
Incroyable.
Et ils prévoyaient d'arriver comment alors,
et l'avion devait amerrir en baie de New York.
Waouh. Ah ouais. Voilà.
Et l'avion, ben, donc on le voit, il survole la France, Etretat, où il y a aussi un mémorial qui lui est dédié. Et puis après, on perd sa trace.
On l'a pu le retrouver.
Oui, on pense qu'il a sombré dans les flots de l'Atlantique.
Wow. D'accord.
Et c'est dans ces circonstances dramatiques qu'un jeune Américain, j'ai de 25 ans, donc que personne ne connaît, et va prendre part à cette aventure.
Okay.
Lui, il s'élance de New York. Mm-hmm. Il s'est fait construire un avion qui s'appelle le Spirit of Saint Louis. Et son idée forte, c'est de faire le contraire de ses prédécesseurs. Quand c'est les autres avaient construit des avions lourds, lui va essayer de l'alléger au maximum. Il faut savoir qu'il embarque sans parachute. Il embarque avec le minimum.
Ouais. Okay.
C'est la vie ou la mort. Hein.
Mmh.
Les autres avaient été partis à deux ou à quatre. Lui partira tout seul. On va l'appeler l'aigle solitaire.
D'accord.
Ou le preux solitaire. Et donc, il décolle de New York. L'avion décolle péniblement. Péniblement, comme le disait Francis.
Pour les mêmes raisons. Hein,
oui, pour les mêmes raisons. Il est très lourd, alourdi par l'essence. Et il se met donc à survoler l'océan Atlantique. Et je dirais que son principal écueil, de Lindbergh, c'est le sommeil. Parce qu'il faut savoir qu'il a pas...
Ça a duré combien de temps alors, cette traversée ?
33 heures.
Il ne fallait pas dormir.
Et c'est là où il devait se tenir éveillé.
Il n'a pas dormi la veille.
D'accord.
Ah, oui.
Donc il doit lutter contre le sommeil. Alors il recourt à différents stratagèmes. Alors, il cligne de l'œil droit, puis de l'œil, de l'œil gauche. Il descend son avion au ras des flots. Il sort la tête de son habitacle pour être happé par le vent frais qu'il réveille. Et son Odysseus donne des claques aussi, d'ailleurs, en passant.
Oui, bien sûr, logique.
Il y a aussi le givre qui alourdit dangereusement son avion. Là, il manque de sombrer dans l'Atlantique.
Mm-hmm.
Mais son pari réussit. Il survole les côtes irlandaises. Mm-hmm. Et puis, il arrive du côté de la Normandie. Il va jusqu'à Paris, la capitale. Oh. Il fait le tour de la Tour Eiffel avec son avion. Et aussi étonnant soit-il, il n'a pas emmené de carte du Bourget, de Paris, de la région parisienne. Donc il ne sait pas où est le Bourget.
D'accord.
Il est à Paris, mais il ne sait pas où se trouve le Bourget.
Où est-ce que j'atterris ?
Eh bien, il va réussir à atterrir au Bourget, tout simplement parce que les gens savaient que Lindbergh allait atterrir. Par radio, voilà, on savait que Lindbergh allait atterrir incessamment sous peu au Bourget.
D'accord.
Et il y a une cohorte de voitures qui part de Paris jusqu'au Bourget. C'est le premier embouteillage monstre de la capitale.
Ah.
Et donc,
il suit les phares allumés
jusqu'au Bourget. Il atterrit dans la nuit noire du Bourget. Et là, c'est quasiment l'émeute parce qu'il sort de l'avion. Et là, les forces de sécurité sont complètement débordées. Il y a des milliers de personnes qui sont là
pour l'attendre.
Ce qui dit bien le prestige incroyable des pilotes à cette époque.
Incroyable. Ouais. Et son avion manque de peu d'être vraiment endommagé.
Ouais, bien sûr.
On le sauve. Et va s'en suivre surtout une tournée triomphale sur le vieux continent, en France, en Angleterre. C'est une tournée vraiment triomphale.
Ouais.
Il va revenir aux États-Unis. Et là, il va faire le tour des États-Unis avec cet exploit qui lui colle à la peau. Je dirais que Lindbergh a beaucoup marqué parce qu'on va prendre l'essor de l'aviation commerciale va naître après cet exploit.
D'accord. Merci beaucoup de nous avoir parlé de Lindbergh. Alors, quelques mots sur la légende, quand même, Saint-Exupéry.
Ah oui,
Franck.
On va quand même parler de notre Saint-Ex régional, si je puis dire, national, international, qui est à la fois, donc évidemment, un grand pilote, mais aussi un grand écrivain, un humaniste, un philosophe, qui, il faut le dire, Le Petit Prince, je démarrerai quand même là-dessus, est un des livres les plus lus au monde. Donc c'est quand même pas rien.
Bien sûr.
Alors, en tant qu'aviateur, donc effectivement, il a été un proche de Mermoz et de Guillaumet hein, quand il était, Eric peut le confirmer, quand il était à l'aéropostale. Très vite, donc c'est quelque chose qui est en lui hein, de piloter. En 1935, le 29 décembre, il est accompagné de son mécanicien André Prévost. Il tente un raid entre Paris-Saïgon à bord d'un Caudron Renault Simoun. Malheureusement, l'avion heurte un plateau rocheux et s'écrase. Donc, les deux aviateurs sont indemnes, mais perdus dans le désert de Libye.
D'accord.
Ah oui.
Alors, ils connaissent alors 3 jours d'errance absolument terrible, sans eau quasiment et sans vivre, avant de connaître un sauvetage inespéré par les Bédouins.
De quelle manière ?
Par les Bédouins qui passaient
qui
à ce moment-là.
Donc, sur eux.
C'est vraiment un peu de la chance, on va dire. Hein,
okay.
Mais bon. Et cette expérience de survie dans le désert va marquer terriblement Saint-Exupéry et va aboutir à l'écriture de Terre des Hommes, qui en 1939, qui sera quand même considéré comme et récompensé par le prix de l'Académie française.
Très
alors,
bien.
Pendant la guerre, il va un peu s'éclipser, il va surtout partir, il va faire des photos du conflit en 1940 quand la France est envahie. J'en parlerai après dans les temps de l'Apocalypse.
Il fait des photos aériennes.
Il n'est pas pilote de chasse. Hein.
Okay.
Il part de la France parce qu'il veut que les États-Unis entrent dans le conflit. Donc, il s'installe aux États-Unis. Il va écrire donc justement son roman Le Petit Prince en 1943, qui va être d'abord publié aux États-Unis, évidemment, et pas en France. Il revient en 1943 du côté de la France libre pour essayer donc justement d'intervenir dans le conflit à sa façon, c'est-à-dire en essayant de prendre des photos pour préparer le débarquement en Provence. Donc en août 1944, il va disparaître en mer, donc le 31 juillet 1944. Ouais. On va retrouver bien après, dans les années 90, on va d'abord retrouver sa gourmette, puis ensuite on va identifier son Lightning P-38 en début 2000, et on a des vestiges donc de cet appareil au Bourget, Eric, il me semble.
Ils sont exposés actuellement.
Et on mettra des photos sur le site. Et des photos
sur le podcast.
Très bien,
passionnante.
Voilà. La légende de Saint-Exupéry.
Il est allé très très vite.
Voilà. Merci beaucoup, Franck, pour
cette précision.
Tout à fait.
We'll be right back.
Chères auditrices, auditeurs, nous sommes sur Calade, ma radio 100.9 en compagnie de Franck et Eric pour continuer cette émission Couleurs du monde sur le thème de l'aviation. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter, Franck ?
Alors, vous venez d'entendre Orchestral Manoeuvre in the Dark. Enola Gay.
Quel accent anglais incroyable.
Tout de suite, on se met
des années 80. Les années 80. Alors, ouais. Enola Gay, évidemment,
début des années 80.
Oui, c'était le nom donné à l'avion donc, qui a lancé la première bombe atomique sur le Japon en 1945.
D'accord. Ouais, c'est pas hyper fun comme
thématique. Et donc là, c'est pas du tout risible. C'est même dramatique. C'est-à-dire que là, on passe dans la période de l'apocalypse.
C'est-à-dire et oui, que... c'est notre dernière partie. C'est pas la plus joyeuse de
non,
l'émission.
C'est malheureusement... c'est-à-dire que ce qui aurait pu être une très grande invention de l'humanité est devenu quelque chose utile pour détruire l'humanité.
Absolument. Donc tu vas un petit peu
c'est
nous dire...
C'est une dystopie,
alors...
en fait.
Mais
et,
c'est ça.
Et ça, on l'avait déjà... On l'avait déjà dit d'ailleurs avec les frères voisins
tout
où il avait
fait.
Arrêté de construire des oui. avions parce qu'il avait compris en 1918.
Ouais, tout à fait, que ça allait servir à détruire et pas seulement à voler.
Et voilà. Alors ça commence tout d'abord par l'aéronautique au service du militaire, c'est-à-dire que dès la fin de la Première Guerre mondiale, on a déjà les germes de la Seconde qui se préparent.
Mmh.
Et alors, donc vous avez des États qui préparent des armes nouvelles.
Tout à fait. Alors. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, du porte-avions ?
Alors, le porte-avions, on avait fait des essais avant sur des bateaux classiques. C'est-à-dire, on a essayé de faire atterrir de façon compliquée, d'ailleurs, ouais. des avions sur des bateaux. La création d'un bateau uniquement dans le but de faire atterrir des avions, c'est les Japonais qui ont mis ça en place.
D'accord.
Ce qui est relativement logique, parce qu'eux préparent une guerre, évidemment, parce que le pays est aux mains, évidemment, de l'empereur, mais surtout des militaires. Et ils préparent une guerre expansionniste sur la Chine.
D'accord.
Et leur but, évidemment, comme ils sont relativement isolés en tant qu'archipel, il leur faut effectivement un navire adapté à la guerre et des avions dessus. Donc, ils vont inventer et mettre au point le Ocho en 1922.
Très bien.
1922. Il va être lancé en 1922.
Jusque dans les années 30. C'est le premier porte-avions d'Indes.
Impressionnant.
D'accord.
Donc là, on dépasse le cadre complètement, effectivement, de l'Europe et du côté franco-américain qu'on avait. Là, le but est clair, c'est la destruction de l'ennemi à travers des armes nouvelles. Et on va le retrouver aussi.
Tu peux nous parler du parachutage, justement.
Voilà, justement, dans les techniques de guerre, avec l'utilisation des avions, non seulement pour le civil, mais pour le militaire, et l'utilisation des personnages qui sont à l'intérieur de l'avion, qui peuvent être déplacés et aéroportés.
D'accord.
Les premiers qui vont mettre ça en place, ce sont les Soviétiques dans les années 30.
Okay.
Mais ceux qui vont vraiment commencer à le développer de façon organisée et on va dire de façon efficace, ce sont les Allemands. Les Allemands qui vont utiliser ça dans la, ce qu'on appelle dans la foulée la guerre éclair.
Oui, d'accord, la Blitzkrieg.
La Blitzkrieg. Et aussi, on verra après la dernière étape du parachutage, c'est là quand on verra les débarquements anglo-américains, notamment donc celui de Normandie, avec oui. l'espèce de cri...
Un criquet métallique.
Un criquet métallique qui criquet, permettait oui. à certaines troupes aéroportées qui ont donc été larguées sur la Normandie de se reconnaître.
Exactement.
D'accord.
Et on est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Donc les parachutistes américains sont largués. Puis pour se reconnaître dans l'obscurité du bocage normand, ils utilisent ce criquet métallique.
D'accord.
Alors si on continue, alors, si je reviens sur... Maintenant, un petit peu en arrière, la Blitzkrieg,
oui.
qui veut dire la guerre éclair, de façon littérale en allemand. Donc c'était évidemment une tactique de guerre, une tactique allemande,
oui.
évidemment, qui s'appuie sur une percée par les chars au sol,
oui.
et avec et un appui aérien considérable, avec des bombardiers en piqué qui s'appellent les Stuka, et après avec le parachutage de troupes aéroportées, et après une avancée rapide, ouais. plus rapide possible, des forces qui sont au sol.
D'accord. Donc, en fait, là, pour que la Blitzkrieg puisse fonctionner, il faut impérativement une aviation très, très performante.
On a compris à ce moment-là, ce que les Français n'avaient pas compris, c'est qu'on a compris que la menace, elle n'est plus horizontale au niveau des guerres, c'est-à-dire elle n'est plus terrestre.
Ouais. Elle est verticale.
Elle est verticale. Très la guerre bien. Devient ouais. verticale et ça n'a pas changé depuis.
Absolument.
Les Allemands l'avaient anticipé. Mmh. Nous, on était encore en 1918. Alors, c'était très bien d'avoir la ligne Maginot, mais on ne pouvait pas, effectivement, rivaliser.
Alors, est-ce que les avions à réaction, ils servent à quoi dans tout ça?
Les avions à réaction, ça permettait d'approcher les 1000 km par heure au niveau des avions de chasse. C'est les D'accord. Allemands qui mettent ça au point.
Pendant la guerre, alors
1944. Le seul problème, ça arrive trop tard. C'est-à-dire que l'Allemagne n'est plus en capacité de produire un nombre d'avions assez important pour rivaliser, notamment... avec les forteresses volantes américaines, qui eux sont capables de produire, vu la taille du pays, beaucoup plus vite et à grande échelle, des avions qui vont tapisser donc, les villes allemandes de bombes.
Très bien. Et alors, drone, missile, tu peux nous en dire quelques mots pour finir sur cette partie
alors,
militaire.
Drone, missile, alors c'est encore une fois les Allemands. Et ils ont une île secrète dans la Baltique, à Peenemünde, avec un ingénieur de génie qui s'appelle Feller von Braun, qui va mettre au point des V1 et des V2.
Ok. Alors c'est quoi la différence entre V1 et V2?
Ça veut dire en gros, le V1, c'est une bombe volante.
D'accord.
Qui est à peu près, qui va aussi vite qu'un avion, mais qui fait un bruit perceptible longtemps à l'avance.
D'accord. On la repère.
On a l'impression d'entendre une chaîne de vélo un peu rouillée.
D'accord.
Donc on la repère et on peut l'intercepter.
D'accord.
C'est l'ancêtre du drone. Pourquoi? Parce que c'est une bombe volante sans pilote.
D'accord.
Sauf qu'à l'époque, on ne maîtrise pas exactement où est-ce que ça va tomber. Mmh. Ça, c'est relativement imprécis.
D'accord.
Mais n'empêche, avec les moyens d'époque, c'est assez extraordinaire.
D'accord.
En revanche, le V2, c'est la création du missile.
D'accord.
C'est-à-dire que là, il ne va plus à 600 km/h comme les avions de l'époque.
Oui.
Le V1 monte très très haut et redescend très vite à plusieurs milliers de kilomètres à l'heure.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on n'entend pas, on ne voit pas.
Le quand... V2, tu veux dire.
Le V2, on n'entend pas, on ne voit pas. Mmh. Quand il arrive, c'est terminé, c'est trop tard.
D'accord.
Et on est en quelle année, là, le V2?
Là, on a... En même temps, on est en 44-45.
La toute fin de la guerre. Ouais.
Ouais,
alors, pour info, c'est que Hitler avait prévu de mettre à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, une énorme base de lancement à Elfaux. Éric connaît à Elfaux, donc une base de missiles V2 qui n'a jamais été terminée, heureusement, qui prévoyait donc de lancer à la chaîne des V2 en permanence sur Londres.
Ah
en permanence.
Oui, on a pulvérisé Londres.
Mais on était en 45, c'était trop tard.
D'accord. Mmh.
D'accord. Heureusement.
Alors, cela dit, on est en 45. Et on va aller vers la destruction totale.
Ah oui, alors
avec
là,
les raids de terreur, tu peux
alors là,
nous
du
dire
côté des Américains,
comment donc, ça se passe.
Les Américains vont adapter leur économie en économie de guerre et vont être capables de créer des avions qu'on appelle des forteresses volantes.
D'accord.
Qui étaient accompagnés donc, généralement d'un appui avec des avions de chasse. C'était des énormes avions qui pouvaient donc envoyer énormément de bombes.
D'accord.
Et notamment, évidemment, sur les villes allemandes. Et les villes japonaises.
D'accord.
Et si au départ, on avait des raids de destruction, après, l'objectif, c'était de terroriser les populations.
Bien sûr, ouais.
Alors, vous avez il y a des villes allemandes qui vont être complètement rasées.
Exactement.
Hein, de A à Z, hein, c'est absolument terrible. Hein,
alors, il y a l'exemple de Dresde qui retient mon attention. Pourquoi ? Parce que Dresde n'a aucun vraiment intérêt stratégique pour les Américains en 1945. Et en février 1945, pour, entre guillemets, que les Allemands se retournent contre les nazis, parce que c'était le but aussi, c'était psychologique.
Bien sûr.
On va envoyer des bombes au phosphore, qui va faire plusieurs centaines de milliers de morts.
Ouais.
En quelques heures, on imagine. Ouais, c'était visible à 200 km à la ronde.
Ah ouais.
Je ne sais pas si on imagine ce que ça représente. C'est l'apocalypse, en vrai.
Ouais. Mmh.
On a créé l'apocalypse sur Terre.
Mmh.
Voilà ce qui est devenu l'aviation. Ça, c'est des raids de terreur.
Ouais.
Et donc, ces B-29 vont aussi tapisser le Japon de bombes, parce qu'avec l'avancée des troupes au niveau du Pacifique américain, ils se rapprochent de plus en plus du Japon, notamment Okinawa, ça a été terrible. Et une fois qu'ils se rapprochent du Japon, ils envoient des raids de terreur sur Tokyo. Parce que le Japon a encore résisté. Hein.
Oui, bien sûr.
Hein, après mai 45,
il
a fallu continuer.
Mm-hmm.
Et là, donc, on arrive en mars 45, où c'est la même chose, raid de terreur. Les Japonais ne veulent pas lâcher le morceau.
Oui.
Les Américains ont mis au point l'arme totale, vous savez laquelle c'est.
Et oui,
c'est l'arme atomique. L'arme atomique est au point.
Oui.
Et donc, on va faire un premier test, le 6 août 1945, avec Enola Gay, donc, qui va lâcher... Donc, Little Boy, c'est le nom de la bombe.
C'est le nom de la bombe.
Sur Hiroshima.
Mm-mm.
Et là, on atteint le degré de sauvagerie absolument terrible au niveau de la destruction sur les civils, sur tout, en fait.
Ouais. Et pourquoi la deuxième ? Pourquoi ils ont tenu à faire une deuxième après Hiroshima ?
Parce que les Japonais n'ont pas demandé la capitulation.
Ah ouais ?
Ils ont capitulé au bout de la deuxième.
Wow.
Et en même temps, il faut quand même le préciser, il y avait ça, plus l'avancée des Russes au nord.
Mm.
Ils étaient envahis au nord militairement par les Russes. Et ils avaient donc dans cette partie-là des bombes atomiques. Donc, si on avait continué, on aurait rayé le Japon de la carte.
Ouais, complètement.
Donc là, au bout d'un moment, l'empereur a dit ça suffit,
ils
on arrête.
Ils ont dit ouais, là on capitule. Okay.
Donc il a fallu en arriver là.
Et du coup, si on reprend même l'émission de la fois dernière, on est passé du rêve à
cauchemar
quand même.
C'est cauchemar absolu. C'est, on est capable avec une invention qui était là pour faire progresser l'humanité à détruire l'humanité.
Tout à fait.
C'est terrible.
Alors,
on va à la fin de cette émission.
On va conclure l'émission.
Et il faut expliquer qu'il y aura un troisième épisode l'année prochaine.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, j'allais donner la parole.
Période,
Eric, tu peux annoncer un peu, donner envie à nos auditeurs d'écouter notre prochaine émission.
Bien, la prochaine émission concernera l'après-Deuxième Guerre mondiale.
D'accord.
On ira de 1945 à peu près jusqu'à 1970.
D'accord.
À peu près.
Donc rendez-vous dans un an alors pour
rendez-vous
ce troisième épisode.
Exactement.
D'accord.
Eh bien, merci beaucoup à vous deux de votre éclairage sur
ce
sujet de l'aviation.
Merci Franck.
À très bientôt.
Et merci Patrick et Jean-François pour la technique. Au revoir à tous.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.